Ah, c'est très bien comme ça, oui, c'est mieux. Mais est-ce que vous voyez bien comme ça? Sinon, prenez des chaises là, vous voyez, puis vous, voilà. Voilà, c'est une fresque d'Andrea de Firenze à Santa Maria Novella, donc du XIVe siècle. Un très grand moment dans l'histoire de la fresque, ce XIVe siècle. Alors, si on regarde ici, on a évidemment au sommet un Christ en gloire, Pantocrator, comme on dit, sur son trône de gloire, entouré des anges et des saints. Et à gauche de la fresque, vous avez donc tous les saints qui contemplent, et vous voyez, ils sont au-dessus de l'église Saint-Marc de Florence, et ils sont donc en quelque sorte bien, leur assise, c'est bien l'église qui les porte, vous voyez, et ils ont un ancrage dans l'église qui est clairement donné. Et ici, on veut nous présenter la défense de la foi et des vérités de la foi, des vérités théologiques, mais aussi on veut nous présenter l'Église qui... donc on voit la défense de la foi illustrée ici par les Dominicains. C'est une église, une fresque en l'honneur de l'ordre dominicain, et on voit comment l'apostolat dominicain, de toutes ses manières, la prédication, sous toutes ses formes, le fait de bénir ici, de prêcher, d'enseigner, de secourir les pauvres, tout cela, c'est l'agir de l'église sur la terre qui participe au triomphe de l'église et qui participe à... Donc sa vie terrestre, en quelque sorte, vous voyez, qui est en prise directe avec la vie du ciel. Il y a une sorte de, là aussi, de, vous voyez, de porosité. L'Église vit à ciel ouvert. Et la gloire de l'Église, du corps du Christ, vient directement du Christ. Et en quelque sorte, l'Église institution, l'Église dans son apostolat le plus concret, le plus quotidien, est là au service du genre humain, et la victoire le triomphe et l'Église triomphante et l'Église militante sont là ensemble. Vous remarquerez que il y a un petit jeu d'ambiguïté avec tous ces chiens ici qui sont là. Alors il y a à la fois c'est très classique à Florence dans toutes les églises et les couvents dominicains, on représente beaucoup des chiens parce que Dominique c'est Dominicani. Donc le chien du maître, mais c'est aussi peut-être, c'est à double sens, l'évocation finalement de ceux qui échappent aussi et qu'il faut ramener dans le bercail, de ceux qui gravitent autour et qu'il faut ramener à la foi. Ils sont encore à l'état de chien en quelque sorte, mais ils sont appelés à devenir des chrétiens. Voilà. Et donc cet apostolat-là est véritablement donne à voir un lien entre l'Église triomphante et militante. Et dans la même Église, ce qui est assez intéressant, alors c'est un peu plus flou ici, vous avez la gloire de saint Thomas d'Aquin, et il y a au pied de saint Thomas d'Aquin, au centre, trois personnages, et c'est là qu'il y a une notion de combat qui est en train de qui est donnée à voir sur une des raisons pour lesquelles l'Église combat. C'est qu'ici, au pied de saint Thomas d'Aquin, vous avez Arius, vous avez Averroès, et vous savez que saint Thomas d'Aquin a écrit un contrat Averroès, et le troisième, je l'avais noté, mais je n'ai pas pris mon papier avec moi. Voilà. Je ne sais plus. L'idée étant de... je vais retrouver. L'idée étant de dire que le combat de l'Église, c'est aussi un combat contre la... pour répandre la sagesse de Dieu au travers de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. et que c'est un combat dans lequel l'Église, elle restaure la sagesse de Dieu, elle fait régner la sagesse de Dieu contre les sagesses humaines. Il y a Arius qui nie la divinité du Christ et qui était tellement pétri par une pensée platonicienne qu'il a du mal à concevoir que le Christ puisse être vrai Dieu et vrai homme. Il y a Véorès, ce penseur de l'islam. Et le troisième, c'est bête que je ne retrouve pas, mais je vais retrouver. Et avec cette idée que... Non, ça n'est pas Aristote. Ça n'est ni Platon ni Aristote. Bref. Avec cette idée que les hommes sont enténébrés et qu'il faut les ramener dans la sagesse de Dieu et dans la vérité de la foi et l'apostolat de l'Église, là où elle mène combat et bataille, c'est aussi de les ramener à l'intelligence. Le troisième, c'est un sage païen. Comment? C'est pas Sabellius, non. Non, parce que c'est un non-chrétien. Et c'est un païen. Avec cette idée que les hommes savants et non-chrétiens, eux-mêmes, doivent être restaurés dans la sagesse et dans leur intelligence. Voyez. C'est pas simplement les hérétiques, mais c'est que tout homme, et que la sagesse de Dieu est donnée à tout homme, et que l'Église est porteuse de cela. Et évidemment, pour l'ordre dominicain, saint Thomas d'Aquin est celui qui est le héros qui mène bataille envers cela. Et alors, vous avez en dessous tout un tas de personnages qui figurent justement les arts libéraux et toutes les sagesses humaines, de telle sorte qu'elles soient toutes aspirées, qu'elles soient baptisées, qu'elles soient attirées par le haut et éclairées par la sagesse de saint Thomas d'Aquin. Et donc c'est un des lieux que ici l'ordre dominicain veut faire valoir comme lieu très important du combat de l'Église. C'est une des représentations, évidemment très très marquée par le courant dominicain. Non, c'est pas ça, mais il faut que je fasse attention parce que voilà. Pardon. Ensuite, il y a un autre combat, et là vous avez une représentation tout à fait étonnante. C'est l'Église qui combat aussi un deuxième type de combat que mène l'Église pour sa propre sainteté et sa purification. Avec cette conscience très vive que le combat se mène dans l'Église. Alors vous allez voir cette représentation tout à fait étonnante qui se trouve à Orvieto. Alors Orvieto, c'est quelques dizaines de kilomètres de Rome. C'est là où le pape en 1527 s'est réfugié au moment du sac de Rome. Mais c'est surtout à Orvieto que saint Thomas d'Aquin a écrit la messe du Saint-Sacrement et le Pange Lingua. Et Orvieto est un haut lieu spirituel qui est propriété du pape dans les états pontificaux et qui est une sorte de résidence d'été du pape, parce que c'est en hauteur, et puis c'est une résidence fortifiée, donc il est en sécurité. Et entre 1465 et 1502, beaucoup de papes se succèdent et demandent que l'église d'Orvieto, la cathédrale d'Orvieto, soit ornée pour être digne de recevoir le pape. Et il y a un nombre de fresques absolument stupendes, comme ils disent. Il y en a particulièrement qui sont en fait très pétris par les textes de Dante, la Divine Comédie, donc des représentations de l'enfer, du purgatoire et du paradis qui sont absolument époustouflantes. Et il y a cette représentation étonnante des antichrists. Et ici, on a là quelque chose de tout à fait incroyable. Vous avez des hérésiarques. Vous avez ici quelqu'un qui vraiment ressemble à s'y méprendre au Christ, mais avec un démon qui lui parle à l'oreille. Et voilà une figure de l'antichrist qui nous montre à quel point le mal prend toujours l'apparence du bien. le démon singe et mime toujours le Christ. Et s'il s'appelle Antichrist, c'est aussi qu'il y a le nom Christ est en lui, et il veut paraître comme étant le Christ. Que précisément, le propre de l'Antichrist, c'est qu'il veut paraître comme étant le Christ. Et que l'Église doit mener un combat contre les falsifications du Christ qu'elle porte en son sein et qu'elle est susceptible elle-même de faire émerger, vous voyez. Et vous voyez là-bas cette représentation de l'Église avec des démons qui rentrent et sortent de cet édifice pour nous montrer que cet édifice saint est lui-même susceptible d'être envahi par les rats en quelque sorte et par des imposteurs et que l'Église peut être infestée en fait du mal. Alors vous avez au sommet l'ange Saint-Michel qui justement précipite sur terre le prince du mensonge. Ici, vous avez au pied de l'Antichrist tous ceux qui sont venus lui rendre leurs trésors et leurs armes, qui sont venus se prosterner. Et on voit que l'Église peut être homicide. Et puis, énormément de vices, de dépravations, y sont aussi figurés et représentés. C'est assez... C'est incroyable de voir que le pape, dans sa cathédrale d'Orvieto, a cela sous les yeux, le rappelle. On est en pleine Renaissance, le rappel de tous les abus et de toutes les dépravations dont l'Église est capable. L'accumulation des richesses, la séduction par la parole... et le rappel que les hérésies naissent de l'Église elle-même, en fait, que le propre d'une hérésie, c'est que c'est souvent une vérité de la foi qui est déformée, défigurée, et que, en fait, l'Église porte elle-même, malgré sa sainteté, les germes d'un mal qu'elle doit combattre. Elle porte elle-même la possibilité d'un mal, en tout cas, qu'elle doit combattre. C'est intéressant de ce point de vue-là de voir la manière avec laquelle les auteurs, que ce soit Dante, que ce soit ces artistes, sont capables de parler de l'Église de leur temps et de rappeler les pontifes à un ensemble de vérités assez décisives. Mais il y a un troisième thème que je voudrais évoquer devant vous, dans lequel l'Église mène des combats et que l'on va voir aussi illustré, c'est l'Église qui combat des ennemis terrestres aux côtés des hommes pour de justes causes. C'est-à-dire que l'Église, qui en plus a eu parfois un pouvoir temporel avec des armées, mais enfin pas suffisamment pour repousser tous les ennemis, a mobilisé parfois les princes terrestres du temporel pour combattre des ennemis. Et c'est intéressant parce que de comprendre que dans cette posture-là, il peut y avoir eu des causes politiques qui l'ont emporté sur un combat spirituel, mais que l'Église a toujours voulu rappeler qu'elle est là pour amener au ciel. Alors je voudrais pour cela vous montrer cette icône qui était une des plus grandes icônes au monde, qui se trouve à Moscou et qui nous montre la bataille menée par Ivan le Terrible ici, le retour de bataille d'Ivan le Terrible qui est allé prendre la ville de Kazan qui est ici, que l'on trouve en feu. Et on voit que Ivan le Terrible, qui porte un étendard, est accueilli par une troupe angélique et Saint-Michel à sa tête l'amène vers la Mère de Dieu qui se trouve ici dans la cité sainte. Et puis ce cercle et ces cercles représentent toujours le monde du divin, le monde du surnaturel dans l'iconographie. C'est intéressant, il me semble, de voir qu'une forme d'alliance entre pouvoir spirituel et temporel. On sait que ce genre d'initiative ne pourra jamais être totalement pure, qu'elle sera toujours mélangée, le bon grain et l'ivraie seront toujours mélangés. Mais l'Église prête sa bénédiction, en quelque sorte, à ce type d'initiative, car elle voit quelque chose de juste. Les croisades, la bataille de Lépante, ce sont des batailles militaires, voyez, dans lequel des hommes qui ne sont pas tous saints prennent part à la bataille. Certains viennent y chercher une gloire humaine, d'autres la fortune, d'autres leur paradis. Donc les réalités sont mélangées, mais l'Église donne néanmoins sa bénédiction. Et quand il s'agit de la croisade, vous vous souvenez que le pape excommuniera ceux qui ont pillé Constantinople, corrigeant et condamnant, rappelant qu'il s'agissait de rouvrir la voie vers Jérusalem pour le pèlerinage et qu'il fallait d'abord être dans une démarche spirituelle, que c'était ça le sens des croisades. Elle veut réorienter des intentions troubles, mais elle le fait avec la matière humaine troublée et troublante qui participe à ces aventures. Elle fait entendre que les agissements sur la terre bouleversent le cours de l'histoire des hommes. Or, pour une part, ce cours de l'histoire leur est confié. L'Église est sur la terre et le cours de l'histoire humaine est confié à des hommes qui, s'ils sont de l'Église, peuvent l'orienter de telle sorte que ces aventures humaines s'achèvent dans la vénération de la Mère de Dieu et de son Fils. Évidemment que dans la bataille de Kazan, la prise de Kazan, il y aura eu des massacres probablement et des choses peu louables et honorables. Et il ne s'agit pas de les justifier ou de les excuser, mais l'Église veut rappeler que, en fait, si elle bénit ces combattants qui se battent à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait une puissance ennemie de l'Église. Ici, on est comme pour les pentes et pour les croisades face à des mahométans, tout simplement. Et il faut les faire reculer, en quelque sorte, parce qu'il y a cette compréhension que cet ennemi-là est un ennemi effectivement dangereux pour la foi, qui va égarer les âmes et qui représente une menace pour l'apostolat de l'Église, pour l'annonce du royaume. Alors, cela suppose une forme de compromission avec le pouvoir temporel, évidemment, qui n'est jamais, encore une fois, dénué d'intérêt, mais dans lequel l'Église ensuite essaye de ramener les choses vers la foi. Je prends l'exemple, par exemple, de la bataille de Lépante, ça c'est intéressant. C'est que le pape Saint-Pie V a réussi à mobiliser un certain nombre de flottes de Venise et puis d'un certain nombre de royaumes méditerranéens dans cette bataille de Lépante qui était théoriquement perdue d'avance vu le rapport de force et qui a été assez miraculeusement remportée. Et tout le travail du pape a été de faire que tous les équipages de cette flotte, de ces flottes pontificales réunies, prient le chapelet, d'où la fête de Notre-Dame du Rosaire, qui est le jour anniversaire de la victoire de la bataille de Lépante. Et c'était l'occasion d'un immense travail de conversion des armées, voilà, pour lequel le pape a remercié Saint Philippe Néri, qui a été de ce point de vue-là une figure emblématique de cette prédication. Mais vous voyez, il y a cette idée que l'Église parfois est prise aussi dans des combats humains. Elle ne peut pas faire qu'elle ne le sera pas. Elle sera forcément prise à partie parce qu'elle est aussi une réalité humaine et historique. Elle sera aussi prise dans un certain nombre de conflits humains et il faudra qu'elle sache faire entendre la parole de foi, la vérité de l'Évangile et essayer d'évangéliser même cette manière de combattre. Mais le grand combat de l'Église, cela restera toujours le salut des âmes et le retour du Christ quand il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. C'est cela le combat de l'Église, c'est le combat du corps du Christ qui continue de s'agréger de nouveaux enfants, qui continue de s'étendre, qui continue de véritablement permettre que un jour on est dans notre vigile pascale non pas quatre catéchumènes qui seront baptisés mais plusieurs centaines. En fait, c'est ça le combat de l'Église, c'est de donner au Christ de nouveaux membres, au Père de nouveaux enfants, et que l'édifice saint de la Jérusalem nouvelle soit toujours plus beau. Mais ça reste la vocation de l'Église et ça reste la raison d'être de son combat, c'est de faire surabonder la grâce, mais tout en sachant que le mal continuera d'abonder et que dans cette situation d'entre-deux, l'Église continue de mener bataille pour que le nom de Dieu soit connu et que Dieu le Père soit adoré en esprit et vérité, mais en faisant avec cette histoire humaine cabossée dans laquelle elle se trouve et en devant elle-même se purifier des turpitudes qui la traversent du fait qu'elle est prise dans l'histoire humaine et que tous ses membres sont des hommes marqués encore par le péché, bien que vêtus marqués du sceau de l'agneau. Et c'est cette difficulté hein, du combat de l'Église, d'à la fois faire avec un monde en proie encore au péché et de continuer à porter contre vents et marées cette victoire et de faire entendre l'espérance du salut alors que parfois le mal qui nous entoure peut sembler désespérant. Voilà. Et c'est la mission et la charge de l'Église et ce combat qu'elle mène ici-bas et dans lequel nous sommes individuellement chacun pris. Et voilà, donc c'est ce combat dans lequel nous sommes individuellement chacun pris et partie prenante, eh bien, nous l'évoquerons la semaine prochaine en parlant du combat spirituel de l'âme humaine, de chaque personne, de chacun d'entre nous dans ce combat spirituel. Voilà pour ce soir. Mais peut-être que quelques questions pourront continuer nous aider à approfondir. Oui, Antoine. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur l'Église souffrante ? Ce sera deux mots, pas beaucoup plus, mais l'Église souffrante, c'est donc cette part du corps du Christ qui est en fait en face qui est attirée par le Christ. Puis, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, dit Jésus. Et ils sont passés de la mort, de la vie à trépas, ils sont morts, ces membres du corps du Christ qui sont encore très engourdis par le péché, qui sont quelque sorte encore paralytique, calcifié par le péché qui les abîme et dans lequel la charité de Dieu ne circule pas, n'irrigue pas tout leur être encore pleinement. Et donc, un peu comme, si vous voulez, une sorte de pesanteur que le péché sur la terre nous marque, cette pesanteur nous cloue encore au sol et nous n'avons pas encore retrouvé la totale liberté de notre mouvement pour nous élancer vers Dieu. Et donc ce temps de purification qu'est le purgatoire, c'est ce temps où nous recouvrons une totale liberté, la liberté pleine et entière des enfants de Dieu. Une autre image que je peux prendre, c'est cette image de l'homme qui est dans une forêt obscure, et puis qui tout à coup arrive dans une clairière très lumineuse. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer les yeux parce qu'il est ébloui, la lumière est trop intense pour qu'il supporte cette lumière. Et en quelque sorte, il faut que l'œil s'accommode. Il faut ce temps de réadaptation, de réajustement à son Seigneur. Et c'est cela le purgatoire. Et cette Église qui souffre encore de devoir, cette part de l'Église, elle souffre encore de parce qu'il y a encore des vieilles croûtes de péché qu'il lui faut arracher et qui lui collent à la peau. Et il y a encore une sorte de conversion et de renoncement à ces complaisances avec le péché qui l'abîme. Voilà.
On peut préciser la chose suivante encore sur l'Église souffrante, donc les personnes en état de purgatoire, c'est qu'elles ont fait le choix de Dieu, et c'est un choix définitif. Donc on n'est plus dans un état où il y aurait un balancement, est-ce que je peux dire non à Dieu, est-ce que je peux être rebelle à Dieu. Ils ont fait le choix de Dieu. Et donc la vertu d'espérance ne joue plus pour eux, parce que c'est une certitude, ils verront Dieu. Précisons cela. Personne en état de purgatoire ne voudrait revenir sur la terre parce que sur la terre, on est justement en hésitation, on pourrait dire encore, alors que dans l'état de purgatoire, c'est une certitude, on verra Dieu. Et c'est l'un des aspects, on pourrait dire, de la souffrance aussi de l'état de purgatoire. C'est, il y a à la fois, on pourrait dire, le père de Mello l'a évoqué, cette rééducation à la communion, cette rééducation à l'amour, et qui est douloureuse parce qu'on était recroquevillés sur nous-mêmes comme conséquence de notre péché. Mais il y a une autre souffrance qui est celle de, j'allais dire, du fiancé qui entend la voix de la fiancée. Il sait qu'ils vont se retrouver, mais c'est pas encore tout de suite. Et donc il y a une langueur, il y a un désir qui est là, mais c'est aussi l'occasion de creuser ce désir. Qui fait partie justement de notre ouverture au ciel, c'est que nous sommes appelés à entrer dans la vie éternelle, non pas avec un petit désir rabougri, mais avec un désir qui s'est pleinement ouvert. Oui, Odette ? Oui. Alors je reprends la question pour que celle figure dans l'enregistrement. Sachant que la Vierge Marie nous est donnée comme mère de l'Église, que la Vierge Marie soutient la foi de l'Église par les apparitions, ne devrait-on pas plus recourir dans le combat spirituel à son aide? Alors, il est important de voir que il n'y a pas une concurrence dans le ciel entre, on pourrait dire, le Christ d'un côté, la Vierge Marie de l'autre, le Padre Pio dans un troisième. Il n'y a pas de concurrence entre eux. Ils sont des dons que Dieu nous fait. Ils sont des dons que Dieu nous fait. Et nous sommes appelés justement à user des dons que Dieu nous fait dans la surabondance de son amour. Alors la Vierge Marie est vraiment celle qui, dans son humanité, s'est ouverte le plus pleinement à l'action de l'Esprit-Saint. Donc elle est celle qui a accueilli la volonté de Dieu. Elle est celle qui l'a mise en pratique, qui a grandi dans cette mise en pratique. Elle est celle qui a suivi le Christ de tout son être et qui est du coup est comme celle qui nous est donnée aussi pour que nous-mêmes nous apprenions à faire naître le Christ dans notre vie. Donc oui, la Vierge Marie est vraiment un don précieux qui nous est fait, non pas en concurrence avec les autres, mais elle est un don précieux qu'il serait un peu inconséquent de négliger. Voilà, elle est celle qui nous mène au Christ. C'est le Christ est le Sauveur et la Vierge Marie nous aide à le contempler, à nous approcher de lui à l'aimer. Il y a une question encore, oui? Alors, la question est légitime, je reprends la question pour l'enregistrement, de se dire avec ce que l'on peut voir dans notre actualité, des guerres, des catastrophes, vous citiez l'introduction dans notre constitution française d'un droit à l'avortement, est-ce que on est dans cette période finale? Est-ce qu'on est dans cette période de l'Antichrist? À la fois, on se souviendra que le Christ dit « Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure », et donc nul n'est capable de nous dire « Ce sera le jeudi tant de tel mois de telle année ». Et celui qui vous dit ça, ben, ce n'est pas la peine de le prendre au sérieux, parce qu'il aurait pu vous dire n'importe quoi d'autre. En revanche, nous allons vers la fin des temps. Depuis l'ascension du Christ et le don de l'Esprit Saint, nous savons que nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Et nous devons du coup être prêts au témoignage. C'est là-dessus que nous sommes appelés à nous disposer. C'est-à-dire ne soyons pas des endormis. Il y a des périodes de tribulation, et bien elles sont l'occasion de rendre témoignage à la vérité, de rendre témoignage au Christ. Et nous sommes appelés à justement aimer la vérité. C'est elle qui nous permet juste de réagir pour éviter que les hommes soient séduits par les solutions de facilité. Parce qu'on le voit dans notre société aujourd'hui, ceux qui promeuvent l'avortement ou l'euthanasie, on va nous dire « mais c'est pour la dignité de l'homme ». Voilà, la dignité, le droit de mourir dans la dignité. Voilà que le fruit qui fait mourir, comme dans Genèse 3, nous est présenté si bien qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est savoureux à manger, désirable à posséder. L'amour de la vérité doit nous permettre et nous invite justement à démonter ces fausses vérités, ces faux saluts de l'homme.
De tout temps, les chrétiens ont essayé de déchiffrer les signes des temps qui feraient qu'ils pourraient détecter, donc vous savez, la peur de l'an 1000, hein, voilà. Et vous savez, l'œuvre que je vous ai montrée sur les purifications de l'Église, d'accord, en fait, sa commande était faite juste avant 1500, parce qu'on pensait que, aussi, arrivé à 1500 ans après le Christ, il était possible que Jésus revienne, quoi. Et donc, tout ce programme artistique iconographique d'Orvieto sur et puis en plus en relisant Voragine et Dante amène à multiplier cette sorte d'inquiétude et ce besoin de se dire mais en fait peut-être que on est dans les derniers temps. Et en fait, c'est une sorte de récurrence chez les chrétiens de se dire mais est-ce que c'est pas le signe que là on est dans les dernières tribulations et voilà. Alors là-dessus, il faut se méfier de cette tentation de dire ah ben voilà ce qu'annonce l'Apocalypse. Là, je le vois parce que il y a tant et tant d'indices. En plus, les astres ceci, telle catastrophe naturelle, et puis la voyante machin a une motion intérieure qui lui a, voilà. Bon, vous voyez, il faut faire vraiment attention à ça. Par contre, que nous hâtions le retour du Christ par la charité, comme dit saint Pierre dans son épître, ça c'est notre responsabilité. Parce qu'en fait, nous attendons ta venue à la gloire. Pour nous, la fin des temps, le retour du Christ en gloire, c'est une bonne nouvelle, hein, en fait. Vous voyez, nous l'attendons. Parce qu'on en a ras-le-bol de payer des impôts. Vous voyez, et donc, nous, on a hâte que le Seigneur revienne. Vous voyez, et c'est notre responsabilité que la charité croisse. Et finalement, c'est la seule chose qu'on ait à faire. Et lorsque le Christ, et lorsque le Père, qui est le seul à connaître l'heure de la fin des temps, verra le corps du Christ pleinement rassemblé, proportionné pleinement à celui qui en est la tête, eh bien alors il jugera que c'est l'heure dernière. Voilà. à nous de continuer de proportionner le corps à la tête, vous voyez, par la charité du Christ et la sainteté dont nous voulons vivre.
Alors, il est tard, déjà. Énoncez votre question quand même. Alors, j'énonce la question. Le patriarche Kirill de Moscou justifie la guerre actuelle de la Russie contre l'Ukraine au nom de la lutte contre l'Antichrist qui représente l'Occident. Alors, je vous ferai pas une réponse ce soir, parce qu'en 2 minutes, ce serait trop caricatural. Voilà, on a enregistré la question, mais ce sera pas pour ce soir. Je vous invite, pour terminer notre soirée, à ce que nous confions notre pays à l'intercession de la Vierge Marie, en particulier ses dirigeants, ceux qui ont fait preuve de courage parmi les députés en refusant ce vote inique et en priant aussi pour ceux qui s'y sont livrés afin que l'amour de la vérité travaille leur cœur. Nous nous confions aussi dans notre chemin de carême, qu'il soit pour nous l'occasion de grandir dans l'amour de la vérité, dans la suite du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Travail, le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une nuit paisible et reconstituante au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.